Mais qu'est-ce que c'est ça?
Hé, hey, mais qu'est-ce? Je comprends rien.
Oh, ça sent donc bien drôle. Dossier bizarre.
Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à cet épisode de Dossier bizarre. Jason Lévesque qui est à l'animation aujourd'hui, et notre expert qui va nous parler du sujet est Monsieur Tristan Brunet-Dupont. Bonjour.
Salut, Jason.
Ça va bien?
Ça va bien, toi?
Très bien.
Excellent, excellent. Et là, je suis bien content de vous parler d'une créature.
Une créature.
On n'est peut-être pas à autant de l'Halloween, et je suis pas mal sûr qu'elle va faire peur, celle-là. Si vous avez des jeunes enfants, en tout cas, ça va être à peut-être écouter avant de le faire entendre à vos jeunes enfants.
Ben oui, parce qu'on sait, hein, on a des jeunes fans, jeune homme qui nous écoute en boucle. On le salue d'ailleurs, et bientôt, on va faire les loups-garous pour lui, à M. Aziz, qui est un grand fan. Alors, on le salue au passage.
Alors là, je vais vous parler d'une créature qui s'appelle le Wendigo.
Le Wendigo.
Est-ce que ça te dit quoi, Jason, le Wendigo?
Ben, ça me dit quelque chose. Le nom me dit quelque chose parce que je pense que dans les années 90, l'émission X-Files avait fait un épisode sur le sujet. X-Files qui parlait surtout des extraterrestres, mais il y avait des épisodes hors série aussi qui mettaient au milieu de leur saison avec plein de sujets comme ça, des aventures uniques qui duraient un épisode. Et il me semble que le Wendigo en avait fait partie.
Ah ben c'est clair, les X-Files, ils ont tellement couvert quantité de créatures.
Une dizaine de saisons, c'est assez pour couvrir pas mal de stock.
Mais le Wendigo, petite tranche de vie avant de se lancer dans la description de cette créature, de comment j'ai découvert cette créature, le Wendigo. Mes amis avec qui je faisais des grandeurs nature avant vont être contents que j'en parle. Je faisais des reconstitutions médiévales de Renaissance à l'époque. En termes plus geek, on appelle ça des GN, des grandeurs nature ou des Dungeon Life. Et il y en a un que je faisais, c'était dans les années 1750 à peu près, sur une île fictive qui s'appelle
Mira. Tu fais pas ton âge, Tristan.
Comment ça?
Ben, c'est parce que ça se faisait en 1700.
Ah ouais, ouais. Okay, c'est ça. Désolé, je suis fatigué. Alors,
c'est une joke de mon oncle.
Ben oui, on se créait des personnages et on reconstituait l'époque là, des 1750, donc c'était à l'époque de la Renaissance. C'était sur une île fictive, sur l'île de Nirar, entre l'Europe et la Nouvelle-France.
Okay.
Et les explorateurs, les colons, arrêtaient à Nirar, en plein milieu de l'Atlantique, avant de repartir.
C'était comme une halte routière.
C'est ça, c'était une halte. Et sur cette île-là, il y avait des créatures. C'est une île fictive, donc loup-garou, il y avait des démons, il y avait des gobelins, il y avait toutes sortes de trolls.
Il était-tu le Yeti?
Le Yeti, il y avait un Yeti à un moment donné. Oui, en fait, c'était plus le Bigfoot. Le Bigfoot. Okay. Et puis, il y avait aussi des bataillons de Français et d'Anglais qui faisaient vraiment des reconstitutions. C'était un scénario vraiment hallucinant. Et là-bas, il y avait aussi des Wendigo.
Okay.
Il y avait le Wendigo. Quand on tombait sur le Wendigo, il fallait être bien armé parce qu'il faisait très, très peur. Il y avait plein de sang sur lui. C'était une créature un peu... vampirique, cannibale. Okay. Et c'est là que j'ai découvert le Wendigo. C'est quand je l'ai combattu moi-même en tant
qu'Édouard
Dubois, mon personnage, qui était un mercenaire à l'époque. Et mon but, c'était de capturer, de tuer des créatures afin de revendre leur peau et de faire la pièce.
Ça doit être quand même assez cher, une peau de Wendigo.
Mais ça, c'est vraiment le côté de comment j'ai connu le Wendigo.
Okay.
Et là, on va y aller avec la description, on va s'amuser.
Oui, c'est dans certaines cultures, c'est une créature qui mythique qui existe au même titre que le Bigfoot va exister pour d'autres cultures. Et elle fait partie du folklore de certaines cultures.
C'est les Amérindiens.
Ah, OK.
Ça vient des communautés autochtones aux États-Unis et au Canada. C'est une créature surnaturelle, maléfique.
Elle n'est pas fine, celle-là.
Non, vraiment pas. Et cette légende, c'est une légende. Hein. Ça vient vraiment des légendes autochtones, des communautés autochtones.
Ils ont un folklore très riche parce que le Bigfoot fait partie aussi du folklore amérindien. On l'a vu quand on a couvert le Bigfoot. Oui, c'est très moderne, très américain comme concept. Des mondes qui s'en vont dans la forêt avec des armes là, puis qui veulent trouver la bébite. Mais à l'origine, on le retrouve beaucoup, le Bigfoot, aussi dans la culture amérindienne. Il y a des références qui sont faites, mais... le Bigfoot dans la culture amérindienne est plutôt positif, il est plutôt gentil.
Ouais.
Il est comme le protecteur de la terre, protecteur de la forêt, il est là pour prendre soin de la nature et tout ça. Donc, il y a une connotation très positive dans la culture amérindienne. Le Wendigo, ça serait-tu comme son alter ego,
Ça serait comme le démon du Bigfoot, si on pourrait dire ça comme ça. Parce que la description là, de la légende, justement, autochtone, c'est un humain qui se transforme en créature après la consommation de viande humaine comme une possession spirituelle. Alors, le Wendigo, c'est vraiment un monstre cannibale, squelettique, très, très laid, là, très, très laid. Ça serait un humain qui se transforme vraiment là, en créature très, très laide, très mince, squelettique, après avoir consommé de la viande humaine.
OK. Ça ressemble un peu à moi à l'adolescence. Moins la viande humaine, là, j'en mangeais pas, mais j'avais l'air de ça.
C'est drôle parce que j'allais dire un peu la même chose de moi, mais moi encore plus que toi, Jason. Parce que j'étais à 16-17 ans, là, j'avais les bras plus longs que le corps.
Ouais, ben oui.
Je suis 6 pieds 4 aujourd'hui. Ben oui. Puis j'étais très, très mince et j'avais vraiment l'air d'un genre de squelette ambulant.
T'avais pas besoin de te couper les ongles, il frottait à terre puis il s'usait tout seul, là.
Exactement, c'est ça. Je vais vous faire un peu peur, là, parce que vraiment le physique de cette créature. Okay. Vous allez voir, ça fait peur. Le Wendigo était émacié à un point extrême. Sa peau desséchée, tirée et tendue sur ses os, avec ses os poussant contre sa peau, elle-même de la couleur des cendres grises de la mort et ses yeux repoussés au plus profond de leur orbite. Le Wendigo ressemblait à un squelette récemment déterré de sa tombe. Ses lèvres étaient en lambeaux, souillées de sang et de souffrance de sa suppuration de la chair. Le Wendigo dégageait une odeur étrange et inquiétante de dégradation et de décomposition, de mort et de corruption.
Est-ce que ça serait le mythe qui aurait fini par nous donner le zombie moderne, parce que le zombie, on le sait, ça c'est pas nécessairement, on l'a jamais abordé, là, mais on va finir par le faire, ça vient pas de là nécessairement, c'est pas une créature mythique. Le zombie, ça fait plus partie de la culture du voodoo haïtien, mais la description que tu donnes, par exemple, dans les films et les séries, on prend The Walking Dead, par exemple, c'est souvent cette description-là qu'on a, la peau desséchée, grise, oui. Les lèvres défaites avec du sang, puis l'odeur qui vient avec. On dirait quasiment que c'est la description que tu donnes du zombie moderne qu'on voit dans les films.
Oui, effectivement. On pourrait penser à la goule aussi. La goule, qui est une créature là, qui court à quatre pattes, puis qui est un humain très mince, très, très laid.
Ils sont pas beaux.
Non, la goule et le zombie, je pense qu'effectivement, c'est des créatures qui ont probablement été inspirées par le Wendigo, qui, lui, date de milliers, des milliers, des milliers d'années, parce qu'on le sait, hein, la communauté autochtone, est ici en Amérique depuis à peu près 10 000 ans.
Mm-hmm.
Donc, il y a beaucoup de... Il y a différentes tribus, communautés autochtones.
Oui.
Ce sont les Cris et les Innus et les Algonquins et les Ojibwas qui ont vraiment là, parlé de cette...
Dans notre culture, c'est très québécois, ça. Il y en avait là, de ces tribus-là. Il y en avait partout en Amérique du Nord, mais au Québec, il y en a beaucoup aussi. Là.
Exactement.
Il y a des descendants de ces autochtones-là qui avaient un folklore là, très riche là, en créatures, justement, là, du Bigfoot, mais aussi le Wendigo.
Exactement. Hmm. C'est assez spécial quand on voit aussi que c'était présent dans la culture amérindienne, un peu pour faire peur aussi aux enfants, on va se le dire, comme un peu comme le bonhomme 7 heures.
Ben oui.
Le Bigfoot, on revient un peu à ça. Oui. Le Bigfoot, c'était un peu la même chose. Là. Quand il y a des créatures qui rôdent dans le bois, t'as pas tant le goût de sortir du village.
C'est moins tentant un peu, mettons.
Exact.
C'est moins tentant. Peut-être que tu veux y aller, mais si tu vas y penser.
Exact.
T'as entendu un bruit bizarre, je retourne à la maison.
non, c'est ça. Le côté, il y a un côté maléfique. On parlait du côté maléfique de ça. Le Wendigo est associé au péché de gourmandise, de cupidité ou d'excès en tout genre. Il n'est jamais satisfait après avoir tué une personne pour la dévorer et se met constamment à la recherche de nouvelles victimes. Dans certaines traditions, l'homme qui est dominé par la cupidité pourrait se transformer en Wendigo, le mythe devenant ainsi une façon de prôner la coopération et la modération.
Mmh.
Donc, dans les communautés autochtones, si tu ne veux pas te transformer en Wendigo,
faut que tu participes et que tu sois pas. Tu profites pas des autres nécessairement. Faut que tu fasses ta part aussi, puis que tu participes et que tu sois capable de mettre l'effort pour aider les autres sans nécessairement penser avoir quelque chose en retour.
Exactement. Hmm. Donc, les Ojibwés, les Cris de l'Est et les Innus les appelaient les Wendigowak.
Aha.
Alors, les Wendigo-Hacks, c'était justement les Wendigo qui parcouraient les bois à la recherche de viande, de chair humaine. Et ils sont décrits aussi plusieurs fois comme des géants. C'est-à-dire que la légende dit que plus ils mangeaient, plus ils avaient faim.
Ah.
Donc, après avoir mangé un humain, ils grossissaient et ils devenaient de plus en plus géants.
Leur appétit grandissait plus ils mangeaient. Donc, c'est un peu comme s'ils étaient damnés, dans le fond.
C'était exactement
ça. Ils satisfaisaient leur envie de manger, mais plus ils mangeaient, plus ils avaient faim. Donc, il n'y avait jamais de faim.
Exact. C'était, on l'a dit ici, là, ils étaient donc gavés et en état de famine. Donc, ça n'a pas l'air le fun d'être un...
Non, hein, c'est comme quelque chose, c'est pas dans mes ambitions, finalement, ça.
On va y aller un peu avec l'étymologie.
Oui.
Wendigo. Le mot apparaît dans différentes langues et dialectes amérindiens. Il y a des douzaines de variations. Par exemple, on peut dire Wendigo, Wendago, Wendaga, Wittico, Wittikao. Alors, on en a tiré...
Mais ça désigne tout le temps la même créature. Il n'y a pas de variation vraiment pour la créature. C'est juste le nom ou la prononciation qui change.
Oui, exactement. Et ça veut dire vraiment le mangeur de chair humaine. C'est ce que le mot veut dire là, dans le langage autochtone.
C'est pas le genre de nom que tu veux avoir nécessairement. C'est comme... Quoi ton surnom, toi, mangeur de chair humaine?
Exactement, non, c'est ça. Cette créature, pour vrai, moi, elle me fait très peur. Parce que sur les vidéos en ligne de créatures humanoïdes qu'on a répertoriées, souvent on peut voir des créatures un peu squelettiques dans le bois puis tout, puis en tout cas ça fait bien peur. Puis moi je trouve que ça ressemble au Wendigo, ça fait très très peur. J'ai d'autres segments ici très intéressants. En général, le Wendigo est associé à l'hiver, lorsque la nourriture se fait rare et que les hommes sont poussés au cannibalisme en cas de grande famine ou de disette. La plupart des contes indiquent que le Wendigo fait son apparition lors de la montée des vents froids, poussant des cris perçants et de terribles hurlements. Donc, imaginez dans la tempête, là, on
ben
entend...
Oui. Ben oui, c'est
on
ça.
On entend crier et tout. Ah. Et certains prétendent même que le Wendigo est fait de glace et de froid, tout au moins son cœur. Bien que la plupart des contes présentent le Wendigo comme étant cannibale, dangereux et violent, l'hôte peut encore essayer de vivre loin de la civilisation, au plus profond des bois, pour empêcher quiconque d'être sa prochaine victime. Il y a même du monde qui disent que... Il y a des légendes autochtones qui disent que certains humains qui se suicidaient avant de se transformer en Wendigo.
Oh!
Après, quand ils avaient trop mangé, puis là, ils se sentaient le possédé par une créature, par quelque chose. Ils s'enlevaient la vie parce qu'ils pensaient qu'ils allaient se transformer en Wendigo.
C'est fort, hein?
C'était très ancré dans la culture.
Oui.
C'était pas juste un certain mythe, on y croyait.
Ouais, ben c'est ça, c'est un peu comme si on se rapporte à, ben, je sais pas moi, à la Grèce antique, et on faisait un peu le même principe, c'est qu'on avait plein de contes de créatures qui peuplaient la forêt ou les terres non explorées pour empêcher les jeunes d'y aller, de s'aventurer à des endroits que il y avait certains risques là, qu'ils pouvaient courir, fait que pour leur faire peur, pour les empêcher. On inventait des créatures, mais avec les années, ces créatures-là prenaient une vie réelle. Ils devenaient vraiment des êtres réels dans l'imaginaire des gens. Ils existaient pour vrai. Alors, ce qui commençait comme un conte ou un mythe pour... on parle ici de la gourmandise ou de l'avarice ou ce genre de choses-là. Ça prévenait les gens d'éviter certains comportements, de ne pas sortir dans la forêt qu'on ne connaissait pas. Mais avec le temps, ça devient réel, ça devient vrai, cette créature-là. Les gens y croient vraiment. Ça devient un peu une espèce de religion, ou presque, là, on croit qu'il existe vraiment. Et on en a peur, réellement. C'est une peur réelle. On n'a pas peur de l'aspect philosophique du comportement qu'il représente. On a peur de la créature, de la bestiole. Elle existe, elle est faite de chair, elle va m'attaquer ou je vais me transformer en cette bébite-là. On oublie le message qu'il y avait en arrière quand on a créé le mythe. Puis c'est juste l'image du mythe qui demeure qui prend vie. C'est quand même impressionnant de voir ça. Parce que toute la mythologie grecque, la mythologie romaine, tout ça, ça a commencé comme ça aussi. Oui. C'est qu'on a créé des personnages qui représentaient la guerre, qui représentaient l'amour, mais qui représentaient certains péchés aussi, certains comportements. Mais ils ont fini par devenir réels pour les gens aussi, ces personnages-là. On a commencé à en avoir peur. L'hydre, la méduse. Puis on a fini par croire qu'ils existaient vraiment, ces personnages. Alors qu'à l'origine... on associait le personnage à un mauvais comportement ou un bon comportement, à un héros, à un acte glorieux ou à un acte honteux. pour essayer de dire, ben fais pas ça, regarde, c'est la méduse. Mais en réalité, les gens ont fini par croire que la méduse existait, mais le message en arrière, ils s'en foutaient. Ils avaient peur de la bébite, ils avaient peur de la marame avec les cheveux en serpent qui va me transformer en pierre. C'est ça qui faisait peur, mais on oubliait complètement la raison pour laquelle on avait créé ce personnage-là.
Ah, c'est exactement ça. Durant l'époque de la colonisation, Jason, les Autochtones, oui, ont vu arriver plein de colons, des explorateurs et tout. Et les Algonquins disaient que les colons vont se transformer en Wendigo parce que l'hiver, ils mouraient de faim.
Oui.
Fait qu'ils avaient peur que les explorateurs, les colons de l'Europe, aient tellement faim qu'ils commencent à avoir le goût de la chair.
Aha.
Donc, il y avait peur, certains Algonquins avaient peur des nouveaux arrivants parce qu'ils pensaient que les nouveaux arrivants allaient progressivement se transformer en Wendigo, étant donné qu'ils sont en train de mourir de faim l'hiver, ils n'étaient pas préparés.
Bon, peut-être ce réseau de cannibalisme et devenir des Wendigo parce qu'ils vont avoir goûté à la chair humaine.
Exactement. Puis c'est vraiment le goût de la chair, mm-hmm, qui mène à la transformation. Donc, plus on pense à peut-être vouloir se nourrir de chair humaine parce qu'on est en train de mourir de faim, c'est ce qui nous transforme en Wendigo. Donc là, notre corps se métabolise, c'est comme une transformation, une métamorphose, ce qui fait en sorte que tu ne pourrais plus mourir de faim et tu as tout le temps faim.
Mm-hmm.
Donc, tu es constamment en recherche de chair humaine, ce qui te fait en sorte que tu deviens carrément une créature. Là, tu perds le moyen de communiquer, là, tu fais juste devenir un monstre.
Tu grognes.
C'est ça, tu grognes. Et
finalement, tu deviens un adolescent, t'as toujours faim puis tu grognes. Fait que c'est sûr que t'es un ado, c'est clair. Mais une manette dans les mains, il va jouer à Fortnite en grognant puis en mangeant des chips puis t'es correct. Il va te laisser tranquille.
Il est pas plus long que le corps.
Ah oui, c'est ça. C'est des ados finalement.
Donc, c'est une créature, moi, qui me fait particulièrement peur.
Mais on la voit moins, celle-là.
Oui.
On entend beaucoup, beaucoup parler du Bigfoot parce que le Bigfoot fait partie des créatures auxquelles on croit encore. Aha. Parce que bon, je vous ai fait des recherches ou écouté notre podcast là, qu'on a fait à l'autre saison, il y a encore des groupes avec des milliers de membres là, qui parcourent les forêts de l'Ouest américain, de l'Ouest canadien, de l'Est américain, du centre des États-Unis également, à la recherche du Bigfoot parce qu'on y croit.
Oui, c'est ça.
C'est pas juste pour le fun. On croit fermement qu'on va être la personne qui va ramener un Bigfoot ou un cadavre de Bigfoot ou la preuve du Bigfoot. On croit encore à cette créature-là. Le Wendigo fait beaucoup moins partie du paysage moderne des créatures mythiques. On en entend à peu près plus parler.
Non, c'est vrai, c'est beaucoup moins populaire. C'est curieux, je ne sais pas pourquoi on n'en a pas tant comme parlé aujourd'hui. Moi, dans mon grandeur nature, le Wendigo, c'était la créature la plus épeurante. Tout le monde savait c'était quoi un Wendigo.
C'était le boss.
C'était comme le boss, c'est ça, la créature que tu ne voulais pas croiser dans le bois. Mais c'est curieux parce que ça fait vraiment partie d'une époque aussi, l'époque de la colonisation, où là, même les gens, les explorateurs, les colons, en entendaient parler de ça, parce qu'ils communiquaient avec les Autochtones, puis les Autochtones parlaient aussi de ça. Je dirais peut-être la culture populaire américaine, tu sais, du Bigfoot, qui a peut-être englobé, gobé...
Ben, c'est ça, j'ai comme l'impression qu'on a peut-être combiné ou fait un amalgame de beaucoup de croyances dans certaines cultures amérindiennes. Peut-être que le Wendigo a été... transformé en Bigfoot là, pour les gens là, qui y croient, ben ils prennent le Wendigo puis l'intègrent dans la culture du Bigfoot également.
Ouais.
Mais on dirait que tu parles du Bigfoot à n'importe qui, puis ils vont dire puis oui, ils vont savoir de quoi tu parles, un gros babouin qui se promène dans la forêt puis que personne voit.
Le Bigfoot?
Du Bigfoot, mais parle du Wendigo, puis les personnes vont faire comme
non.
Ça, j'ai déjà entendu ce mot-là, mais ils n'auront pas d'image dans leur tête. Tu as fait la description tout à l'heure. Moi, je sais c'est quoi le Wendigo. Je sais que c'est une créature qui est maléfique, mais la description que tu as donnée, j'avais aucune image dans ma tête. Et là, je m'en suis construit une image en écoutant la description que tu donnais, parce que j'en avais pas.
OK, oui.
J'en avais juste pas d'image. Et là, j'en ai une parce que tu l'as décrit, mais c'est comme plus loin, on dirait, là, dans la popularité, ou je sais pas comment dire ça, là, mais dans les mythes, c'est pas un mythe qui est à l'avant-plan actuellement. Il y en a beaucoup d'autres. On parle beaucoup des extraterrestres, des Bigfoot, ce genre de choses-là. Mais le Wendigo, hop, il est comme un peu à l'arrière-plan actuellement.
C'est ça, il est un peu à l'arrière-plan, mais c'est ça qui me fait capoter. C'est il y a une certaine crédibilité due au fait que ça fait 10 000 ans que les communautés autochtones en parlent. Et c'est pas parce qu'on en parle moins qu'il n'est peut-être pas aussi crédible que les autres. Je pense que c'est une créature qui est importante. Elle mérite bien son titre de créature mythique, légendaire. Et après la pause,
oui, absolument.
Je proposerais de parler de certaines techniques que les Autochtones avaient pour essayer de repousser.
OK, on peut s'en débarrasser de ce bébé-là. Ah!
C'est pour se protéger.
Ah, ben ça, c'est le fun, ça. Au moins, on peut faire de quoi. Excellent. Ben, on va aller à la pause, Tristan. On est aussi, là, pour les gens qui écoutent là, en balado-diffusion, on fait une diffusion pour la toute première fois en direct aussi là, sur Facebook actuellement. On va essayer de les annoncer à l'avance les prochaines fois. Ça ne sera pas à tous les épisodes, là, mais à l'occasion, on pourrait en faire là, en direct comme ça. Et on les annoncera là, à l'avance là, à l'avenir. Là, ce soir, c'était vraiment un test. Là,
ben oui,
on fait une expérience vraiment d'un point de vue technique. Et on l'a vu au début, là, ça a été un peu difficile à démarrer. Mais si vous nous écoutez en balado-diffusion, allez vous abonner à notre page Facebook. Vous faites une recherche dossier bizarre sur Facebook. Je pense qu'on est tout seul avec ce nom-là. Vous n'aurez même pas le choix. Vous allez tomber sur notre page directement. Et abonnez-vous et vous pourrez là, vous garder informé pour la prochaine fois qu'on fera une diffusion en direct. Et cette diffusion-là va probablement être archivée et vous pourrez la réécouter également ou la revoir là, sur Facebook. Alors, on va aller à la pause, Tristan.
Oui, parfait.
Et puis, on revient sur qu'est-ce qu'il faut faire pour se débarrasser de ça, un Wendigo.
Excellent.
Les dossiers bizarres est une présentation de...
Vivez l'expérience du rasage de près le plus efficace de votre petite existence grâce au tout nouveau rasoir Biquette à 17 lames. 17 lames. Grâce à cette technologie unique de pointe, les 17 lames du nouveau rasoir Biquette interagissent entre elles pour vous offrir le rasage le plus doux, le plus près, le plus incroyable de votre vie. Les 4 premières lames soulèvent le poil. Les 4 autres lames le soulèvent juste un petit peu plus. Ensuite, les 4 suivantes coupent le poil. Ensuite, les 4 autres arrachent la peau. Et la 17e lame gratte l'os pour être sûr qu'il n'y ait plus jamais de poils dans ce coin-là. Oui, le Biquette à 17 lames. Vous n'aurez plus jamais besoin de vous raser.
Il est conseillé lors de l'utilisation du rasoir Biquette à 17 lames d'être deux hommes adultes pour le soulever. La compagnie Biquette n'est pas responsable des accidents, des maux d'eau ou bien non des coupures qui pourraient chicler partout sur vos murs.
Nous sommes de retour. Tristan qui nous parle aujourd'hui du Wendigo, créature mythique. Créature mythique qui est pas... C'est pas un gros nounours gentil, le fun, comme Bigfoot.
Mais pas du tout, au contraire. Pas du tout un homme qui se transforme en monstre, en squelette. Hein. Dans le fond, c'est vraiment que tu deviens très, très mince. T'as la peau sur les os, comme on dit, et tu te nourris de chair humaine. C'est le goût de la chair humaine qui fait en sorte que tu deviens complètement débile.
Mais tu vois, tantôt, tu décrivais que ces personnes-là, ou le Wendigo, c'était une personne à l'origine.
Oui.
Donc, c'est une personne qui se transforme en monstre. Parce qu'il a goûté la chair humaine et là, il se transforme en monstre où il en veut toujours plus. Et plus il mange, plus il a faim, mais il ne va jamais mourir. Il est un peu comme immortel, mais il va toujours avoir faim, doit toujours se nourrir de plus en plus, va grandir, grossir, devenir de plus en plus vorace, mais ne sera jamais satisfait. La description que tu me donnes là, je me dis, si un jour l'enfer existe, là, ça ressemblerait peut-être à ça un peu.
Ben oui.
C'est l'idée qui m'est venue, c'est peut-être la description de ce que pourrait être l'enfer pour certaines personnes. C'est peut-être un peu l'image qu'on peut se donner de dire, écoute, je mange puis j'ai toujours faim, puis j'ai toujours de plus en plus faim, puis plus je mange, plus j'ai faim. C'est comme ça finit jamais, c'est une roue qui tourne, c'est un cercle vicieux incroyable. Et finalement, ben, c'est que tu vas vivre à perpétuité, tu vas vivre pour l'éternité.
C'est ça.
En ayant toujours de plus en plus faim.
Ah,
c'est infernal,
c'est
là.
Horrible!
Ben oui,
c'est horrible!
Je souhaite pas ça à personne.
Non, non, c'est ça. Puis, quand je disais débile, là, le fait que, je réitère, là, c'est le fait que tu perdes tes idées, ta raison, ta personnalité, ta mémoire, tu perds vraiment conscience de ton être et que tu te transformes vraiment en...
C'est une bête!
C'est ça. C'est une bête. Et il y a certaines légendes aussi qui disaient que, comme je le disais tantôt, le Wendigo, à chaque fois qu'il mangeait de la chair humaine, grandissait un peu.
Ben oui.
Et après ça, il était rassasié, mais il avait faim tout de suite. Donc, il recherchait un autre être humain, d'autres chairs humaines, il remangeait et il grandissait. C'est pourquoi certaines légendes parlent de Wendigo géant dans la forêt. Mais encore là, ça fait partie du mythe. Il y aurait des Wendigo de taille normale aussi.
Oui, ben c'est ça. Puis souvent, le mythe, selon l'endroit ou l'endroit géographique, peut se modifier un petit peu. On peut avoir une version différente. une taille humaine, un autre c'est un géant, un autre il est dodu, l'autre il est maigre, l'autre il est... Alors, il peut avoir des variations, mais à la base, ça reste à peu près toujours la même chose. C'est un humain qui a mangé de la chair humaine, qui s'est transformé en créature, qui veut juste manger de la chair humaine.
Exactement. Il y a même des légendes autochtones qui disaient que dans les rêves, si on rêve la nuit de manger de la chair humaine, notre esprit peut être possédé par le démon là, en question, ouais. Par les forces maléfiques. Et graduellement, dans la vraie vie, après, dans la réalité, on peut se transformer en Wendigo parce qu'on a pensé seulement dans nos rêves à manger de la chair humaine. Notre spirituel peut être affecté dans la nuit et ça peut justement causer la transformation du Wendigo. Fait qu'il faut pas manger de chair humaine, faut pas penser à manger de la chair humaine.
Faut pas avoir envie d'en manger.
Exactement. C'est le truc pour ne pas être un Wendigo.
C'est quand même spécial.
On avait des trucs quand même pour repousser les Wendigos.
Ouais, ben c'est protéger. Ça. Mettons, j'entends aux nouvelles, là, j'écoute la radio, j'écoute ces IELA, puis là, ça dit, Sofiane, alors nous avons une nouvelle de dernière heure, un Wendigo serait présent à Havre-Saint-Pierre actuellement. Je fais quoi? Qu'est-ce que je fais pour me préparer?
Ben, probablement que ça va arriver dans les périodes de famine.
OK.
Parce que s'il y a une période de famine, les gens ont faim. Et là, s'ils ont faim, il n'y a plus rien à manger. Ben là, c'est là que les idées de manger peut-être son voisin arrive.
Okay.
Alors, il faudrait plus se protéger dans les cas de famine des Wendigo.
Okay.
Et c'est en faisant une cérémonie de danse, une danse satirique qui était organisée à l'époque chez les Assiniboines, les Cris et les Ijibois, surtout justement en période de famine, afin de renforcer le sérieux du tabou représenté par le Wendigo pour se protéger. Et cette danse était nommée... Attention, bratakatakutu, pas toi comme ça, mais je vais le dire, vous allez voir, je me prépare les babines pour le dire.
Je regarde ça, moi, là.
La danse Wendigo ka...
Ah,
tabarouette. La danse Wendigo Kanzimouin.
Wendigo Kanzimouin.
Alors, Wendigo Kanzimouin.
Kanzimouin.
Voilà, c'était la danse qu'on faisait en Ojibwa. Je l'ai eu!
Eh oui! Est-ce qu'il y a des gens, des communautés autochtones qui nous écoutent?
Ben oui.
Voilà, Tristan vient de prononcer des paroles.
Wendigo Kanzimouin. Alors, c'était la danse en Ojibwa.
Ça les tuait pas, ça les éliminait pas, mais ça les éloignait du village ou de la communauté.
C'est ça. C'était vraiment cérémonial, un peu comme les danses du soleil pour faire revenir le soleil en cas de pluie, de grosse pluie. Les danseurs portaient un masque et se dandinaient, remuaient l'énergie avec le rythme d'un tambour. Et tout ça se faisait là, parfois avec un feu aussi. Et les tribus donc faisaient vraiment ces cérémonies dans le temps des famines en étant déguisés avec des masques et avec des tambours pour vraiment là, faire peur au Wendigo. Pour lui montrer qu'il y avait un village et que les gens étaient capables de se défendre. C'était un peu ça le principe des cérémonies.
Un peu comme se gonfler, montrer on n'a pas peur de toi, puis tu viendras pas nous achaler parce que nous, on est prêts à te faire, face.
Alors, c'est quoi déjà le mot là, des danses autochtones? J'ai le mot en tête.
Pow-wow?
Oui, voilà.
Ah.
Des pow-wow. C'était un pow-wow, dans le fond. C'était un des pow-wow. Maintenant, est-ce que tu penses qu'on peut le tuer?
Ben, c'est ça que je me dis. Je me dis, s'il ne peut pas mourir de faim, si son rôle dans la vie, dans la chaîne de la vie, dans son rôle sur la terre, dans le grand plan divin, ou appelez ça comme vous voulez, c'est de toujours manger. Oui. J'imagine qu'il y a quelque chose qui fait qu'il ne peut pas mourir. Il va toujours être là. Et son rôle à lui, c'est d'être présent puis de manger des humains. C'est tout ce que je vois.
Exact.
Donc, si c'est aussi basic que ça, si c'est si à la base que ça, son rôle, je me dis, il doit pas mourir, lui.
Ben, c'est l'immortalité, comme on parlait de l'enfer tantôt. C'était un peu ça. Hein, on dirait que c'est un pacte un peu avec le démon, tu sais, que ça ressemble un peu à ça, du fait qu'on est immortel, mais on devient des mangeurs de chair.
Mm-hmm.
Donc, ça ressemble un peu à ça. Mais on peut le tuer, le Wendigo. Ah, on peut le tuer. C'est là qu'il y a une petite comparaison avec le loup-garou, avec le lycanthrope.
Okay.
Il y avait certains liens avec les légendes de loup-garou en Europe. Et le Wendigo, quand les Européens sont arrivés ici, les gens ont dit, les Autochtones ont dit, le Wendigo, on le tue avec une balle d'argent.
Oui.
Alors, les Wendigoak ne sont pas immortels, ils peuvent être tués de différentes façons, dont une balle en argent. Ainsi que le relate de nombreux contes et légendes amérindiennes. On peut aussi brûler le corps de son hôte dans de la cendre. Un Wendigo peut être tué si l'on fait fondre son cœur de glace. Pour cela, on peut le détruire par le feu ou lui verser du suif brûlant dessus. C'est vrai parce qu'il a un cœur de glace.
Ah!
Donc, on peut faire fondre son cœur de glace en le
donc, il n'est pas immortel. Il y a moyen de le tuer. Il y a moyen de s'en débarrasser.
Exactement.
Hmm.
Exactement. Il est très, très... le feu, donc une balle d'argent, ça peut tuer le Wendigo. Donc, c'est des petits points communs avec le lycanthrope, justement, avec les lycanthropes,
ouais.
Avec les loups-garous, c'est l'argent. C'est vraiment les balles d'argent. Les Wendigo ont plusieurs points en commun, là, issus des légendes, des folklores européens, dont ils seraient l'équivalent pour les Amérindiens. Ils ont parfois une forme humaine sous laquelle ils ne peuvent être démasqués qu'à cause de leurs yeux rouges. D'autre part, ils ont une forme monstrueuse, souvent décrite comme semi-animal, et des cas de transmission par morsure sont mentionnés. Donc, quelques comparaisons qu'on peut voir avec le loup-garou.
Ben oui, c'est ça. C'est quand même particulier parce que au début, je sentais que c'était peut-être un peu proche du Bigfoot. Mais là, avec ce que tu décris là, on se rapproche du loup-garou aussi. Encore là, c'est peut-être un mélange des deux avec... Bon, on a parlé du zombie tout à l'heure, mais du zombie moderne, parce que le zombie comme tel, ça existe pour vrai, les zombies, hein, je veux dire, c'est pas... puis c'est loin d'être ce qu'on voit dans les films ou dans les séries, mais oui, il y a bel et bien... le vaudou est bel et bien une religion, c'est vrai, une vraie de vraie religion, pas comme celle qu'on voit dans les films et les séries. Et dans la religion vaudou, il y a bel et bien un mélange qu'on peut faire pour transformer quelqu'un en zombie. Mais ce qu'on voit dans les films, c'est pas ça du tout, du tout, du tout. Mais ça se rapproche un peu de ça. Dans les films modernes, la description que tu as donnée du Wendigo ressemble beaucoup aux zombies qu'on voit dans les films américains, là, à gros budget, qui, bon, il y en a tellement, là, c'est
exact,
on a épuisé le sujet, là, quasiment, mais il y en a énormément. Ça ressemble à ça un peu aussi. Avec le loup-garou pour ce qui est de l'argent, puis bon, la morsure peut transformer ou peut aider ou peut faire de quoi avec ça, puis ça ressemble un peu aux zombies, pas aux zombies, mais aux loups-garous.
Au loup-garou.
Et le Bigfoot pour la grosse créature qui est cachée dans la forêt, puis qui est élusive un peu, qu'on voit pas, qui se cache, qui est... Ça fait qu'il y a comme un mélange de tout plein de mythes qu'on connaît quand même relativement bien, qui font un mythe qu'on connaît moins bien. C'est quand même drôle qu'il y a beaucoup de points communs avec des mythes qu'on connaît super bien.
C'est vrai, il y a plein de liens et de comparaisons. On voit que dans l'imaginaire humain, il y a des choses qui se ressemblent quand même. On reprend là, certains points de certaines créatures. Ce qui le différencie un peu du loup-garou, du Bigfoot et du zombie, je crois que c'est son visage que j'ai oublié de parler.
Oh! Il y a une face!
Parce que des fois, c'est vraiment pas toujours. Il peut garder un visage plutôt humain avec vraiment très, très laid. Là, tu sais, là. Mais... il y a aussi la possibilité que le Wendigo se transforme un peu le visage là, en animal. Ça peut être un orignal, un chevreuil, un loup aussi, mais qu'il y a un petit côté animal, des animaux du bois. Donc,
okay.
Ils disent que ça serait peut-être la chair, j'avais lu ça aussi dans les documents, la chair qu'il mange, ça peut être de la chair animale des fois.
Aha.
Et cette chair-là pourrait créer...
Parce qu'il a toujours faim, s'il ne trouve pas d'humain, il faut bien qu'il mange à un moment donné.
Il
trouve un caribou, il mange le caribou, puis ça peut teinter son visage,
c'est ça? Exact. Ah. S'il mange de la chair de caribou, ben, il pourrait se transformer éventuellement le visage, la tête en caribou. Ce qui, ça veut dire qu'il y aurait un corps long, élancé, mince comme un squelette, mais avec une tête de un peu mi-humain, mi-animal.
Hmm.
Donc, ça fait peur.
Ben oui, c'est ça, c'est spécial. Puis encore là, dans la culture amérindienne, on voit des fois hein, des formes humaines, des formes, des corps humains avec des têtes plus animales un peu. Ça arrive, là, bon, dans les totems, des choses comme ça. Des fois, le corps est humain, puis la tête, c'est une tête animale. Ça aussi, ça me rappelle des... ramène à des références là, d'images que j'ai déjà vues.
Ça pourrait expliquer justement certains costumes autochtones
reliés
à cette légende du Wendigo, effectivement. Maintenant, quand vous allez voir des costumes dans un powwow, si ça ressemble à Wendigo, c'est probablement inspiré de cette légende. Comme tu dis, là, une tête de chevreuil, une tête d'orignal, c'est très inspiré.
Dans les films, des fois, c'est un peu tordu. Là, des peuples de la forêt, là, des fois, c'est ça. Ils ont des déguisements avec des têtes d'animaux.
Oui, c'est,
puis,
ça.
C'est comme un peu... ça me met mal à l'aise un peu tout le temps. C'est des images. Là, tout le temps, qu'est-ce que c'est ça?
C'est drôle parce que je suis allé voir des photos du Wendigo, puis le loup-garou, le Bigfoot, le Sasquatch, tu sais, le Yeti, ça me fait un peu peur, tu sais. Mais le Wendigo,
il y a un côté spécial.
Il y a un petit côté d'horreur.
C'est tordu un peu.
Ouais, c'est ça.
Puis c'est le fait que Ça vient d'une époque et ça s'est perpétué à des époques où il y avait de la misère humaine épouvantable. Oui. De la famine, une mauvaise température. Nous autres, à cette heure, on est équipés. Il y a des serres, on peut faire venir de l'Amérique du Sud des fruits, des légumes. On n'en manquera pas, puis on va être correct. On va juste les payer un petit peu plus cher qu'à l'habitude. Mais à cette époque-là, ça ne marchait pas comme ça. Si les récoltes étaient mauvaises, la chasse était mauvaise parce que les animaux crevaient de faim parce qu'il n'y avait pas beaucoup de nourriture pour eux non plus. On ne pouvait plus se nourrir. Il y en a peut-être eu pas mal plus qu'on pense du cannibalisme à cette époque-là. Là. Puis oui, c'était probablement quelque chose qui se vivait. Pas de bon cœur nécessairement, mais j'ai l'impression que ça vient de là un peu aussi. Puis là, ça nous ramène dans la réalité de dire ils ont peut-être mangé grand-maman à un moment donné, là, parce que grand-maman est morte de faim. Puis on dit ben, il y a de la viande après elle. Puis nous autres, on veut pas mourir. Fait qu'on va faire ce qu'on a à faire. Puis on a vécu ce genre de choses-là dans des pays qui ont été là, ravagés par la Deuxième Guerre mondiale ou la Première Guerre mondiale. C'est arrivé aussi où ils ont découvert que, bon, il y avait des communautés qui étaient complètement isolées à cause de la guerre, qui avaient fait du cannibalisme, des choses comme ça. Ça nous ramène à cette réalité humaine-là que l'instinct de survie, des fois, va faire poser des gestes absolument épouvantables là, de cette nature-là. Puis cette créature-là, j'ai l'impression qu'elle est peut-être née un peu de ça aussi. Là. C'est-à-dire, ça, c'est tentant de manger grand-maman parce qu'elle est morte de toute façon. Mais le Wendigo!
Exact.
J'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu là, une source dans ça, de période là, de famine épouvantable et de misère humaine réelle. Là, pas imaginée, pas dans un conte, pas dans un mythe. Mais réellement, on le vit là, actuellement. On est dans la misère, on n'a plus de manger personne. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va manger nos morts? Est-ce qu'on va manger les gens qui sont morts de faim? Est-ce que ça s'est vécu? Probablement que ça s'est vécu, puis que cette histoire-là a peut-être une source à quelque part là-dedans.
Ah non, c'est très intéressant ce que tu apportes. C'est clair que c'est relié à une certaine époque. Quand on est sur le bord de la mort, puis qu'il n'y a plus rien à manger, puis que tu te dis, je vais mourir.
Les joueurs de football ou de rugby ou je sais plus
le
trop
film,
quoi,
là, ben
avec
l'histoire.
L'avion qui s'écrase, puis bon, à un moment donné, il y a des gens qui sont décédés dans l'écrasement d'avion, ils n'ont plus de nourriture, ils attendent d'être sauvés, espèrent être sauvés et ont dû là,
manger.
Malheureusement, là, grignoter un petit peu leurs collègues d'équipe pour survivre ce temps-là. C'est des choses qui se sont vues aussi là, dans l'ère moderne. Là. On ne remonte pas à 10 000 ans en arrière.
Non,
on
monte
de quelques dizaines d'années et ça s'est fait. Donc moi, ça me ramène beaucoup à ça, de dire hey, est-ce qu'à cette époque-là, on le voyait mal, mais ça existait peut-être plus fréquemment qu'aujourd'hui et que là, on tentait de convaincre les gens de ne pas faire ça en utilisant une créature inventée, une créature mythique là, comme le Wendigo. Ça se pourrait bien là, que ça soit quelque chose comme ça.
Ah, exactement. Moi, j'aimerais avoir comme de l'avis des experts, mettons, de la santé du corps humain. Si, au niveau scientifique, est-ce que le corps humain serait capable de survivre s'il se mettait vraiment en mode sauvage, cannibale, monstrueux, dégueulasse, là, c'est-à-dire de courir dans la forêt puis de capturer des animaux sauvages puis de les manger à la chair fraîche. Est-ce que l'humain serait capable de survivre?
Je ne sais pas, hein, parce que notre système à nous, il est comme dodu un peu, il est comme gâté. Hein, c'est de la bouffe préparée, des fois préparée par... on la jette déjà prête à l'épicerie, il reste juste à la faire chauffer. C'est notre corps n'est plus habitué là, à faire ce genre de choses-là. Peut-être qu'à une certaine époque, oui, mais maintenant, c'est plus possible parce que je pense que notre corps est juste habitué à vivre de grassement de tout ce qu'on a. Je veux dire, un Big Mac, là, c'est loin d'être sauvage. On n'a pas besoin de le chasser. Mais c'est peut-être qu'à une certaine époque, c'était possible. Mais je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui se mettrait à vivre là, 100% sauvage après avoir vécu dans une grande ville, je pense qu'il ne t'offrait pas longtemps, puis je pense qu'il y aurait besoin de beaucoup de papier de toilette les premières semaines qu'il mangerait sauvage.
Exact. Mais voilà, donc le Wendigo, peut-être pour finir, là, je peux dire que quand je revenais de mes grandeurs nature, puis que je disais au monde, je pense que je l'avais déjà dit dans un des podcasts, là, mais je le redis pareil, ça me manque d'en faire. Alors, qu'est-ce que t'as fait en fin de semaine? Ah, moi j'ai fait du soccer, ah, moi j'ai fait du foot, puis toi? Moi, j'ai combattu le Wendigo.
Ouais, ben,
j'ai tué 3 loups-garous. J'ai tué 4 Nedelflons. C'était débile là, ce qu'on vivait dans ce week-end-là là, avec mes amis. C'était fou.
Mais c'est le fun parce que souvent, justement, ces créatures-là vont être intégrées après ça dans des films, dans des livres, dans des jeux vidéo. On va utiliser là, justement ces mythes-là pour venir agrémenter un paquet de choses. Ce que tu me décrivais tantôt, Tristan, il y a un film qu'à peu près personne connaît, que moi j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé ce film-là. Le film en français s'appelle Vorace. C'est un film d'horreur américain qui parle de cannibalisme, mais c'est exactement ça.
Ah ouais?
Ça se passe là, durant la guerre américano-mexicaine. Je me souviens plus des années exactes. Il y a un soldat qui, pour survivre pendant une attaque, c'est un soldat américain, puis là, bon, il y a une attaque des ennemis qui arrive. Et là, il y a plein de cadavres de ses collègues de l'armée. C'est les soldats à qui il combat, il y en a plein qui sont morts. Okay. Et là, il y a une pile de cadavres. Et là, pour survivre, il se cache dans la pile. Alors là, il y a du sang humain qui coule sur lui, il en avale. Okay. Et après ça, après avoir récupéré, parce que bon, finalement, il réussit à survivre, il est reçu par le président comme un héros militaire, etc., etc. Et là, on le renvoie à la guerre une fois qu'il est rétabli. Et là, il a le goût du sang humain.
Ah ouais!
Et il y a d'autres soldats qui ont vécu sensiblement la même chose que lui. Lui veut combattre ça, il veut pas manger de la chair humaine, mais il y a d'autres soldats qui ont vécu des choses comme lui, qui, eux, apprécient manger de la chair humaine. Et ça tourne autour de ça, l'histoire. Ouais. Et c'est excellent. C'est vraiment un très, très bon film.
Wow, okay, ouais.
Il y a de l'humour noir dedans. C'est plutôt drôle comme film, dans le sens où on prend pas nécessairement ça très au sérieux, mais en même temps, ça fait peur. Parce que là, c'est sur une base militaire, et là, il y a les soldats qui sont infectés, plus ou moins, qui ont le goût de la chair humaine, puis il y a les soldats qui ont absolument aucune idée de ce qui se passe. Alors là, ils veulent manger ceux qui le savent pas.
Oh my God!
Alors là, ils se font des super repas puis des buffets avec de la bouffe. Là. C'est fast, là. C'est des grosses bouffes, mais ils sont en train de manger leurs collègues. Et c'est particulier, mais c'est très bon. Mais c'est exactement ce que tu dis.
Okay, ouais.
Parce qu'ils ont goûté à la chair humaine.
C'est ça.
Ne sont plus capables de s'empêcher. C'est meilleur que tout ce qu'ils ont mangé avant. C'est ce qu'ils veulent. Ils se transforment pas en créature. Leur physique change pas. Mais leur mentalité, leur esprit, ils deviennent sauvages, ils voient quelqu'un, ils ont le goût de manger. C'est
comme une folie qui s'installe.
Oui, c'est ça, exactement.
À l'intérieur du cerveau.
Et je trouve que ça représente très bien ce que tu as dit. Donc, le film en français, c'est Vorace, en anglais, c'est Ravenous. C'est avec, quand même, là, c'est Guy Pearce qui joue dans qui tient le rôle principal. Robert Carlyle également qui joue dans ça. C'est des acteurs, bon, on parle de 1999, là, on en entend moins parler de ces acteurs-là maintenant. Mais il y a une vingtaine d'années, c'était des gros noms. Malheureusement, le film a été un flop total. Et pourtant, il est très bon, le film.
Ben.
Alors, je vous le conseille, si c'est un sujet qui vous intéresse, vous ne verrez pas de créatures comme telles, mais les comportements humains, c'est ce qui me faisait peur dans ce film-là.
Ah, ben oui, ben oui.
C'est que là, au lieu d'avoir une grosse bébite qui essaie de manger du monde, c'est le gars à côté de toi qui te regarde et qui dit t'as donc bien des beaux mollets.
Mais moi, c'est ce qui me fait tellement peur du Wendigo, c'est ça, c'est que ça pourrait être ton proche, tu sais.
C'est ça.
Ça pourrait être ton ami dans la légende, bien sûr, là, mais qui perd la raison puis qui se transforme en monstre. Puis là, il devient un mangeur de chair humaine. Puis tu le revois 3 mois plus tard, puis il est rendu un Wendigo.
Ben, c'est particulier. Mais vraiment, c'est tu vois, j'avais jamais fait le lien. Okay, ce film-là, moi, c'est un film de cannibales. C'est des cannibales. Mais le comportement puis l'espèce de folie, comme tu dis, qui s'installe, je me rends compte que c'est exactement là-dessus qu'on s'est basé sur cette légende-là.
Ah, ouais.
Et on l'a agrémenté pour en faire un film de ce type-là. Mais vraiment, c'est exactement ça. Alors, si jamais tu as la chance de le voir,
oui, c'est intéressant.
Vorace.
Puis on pourrait peut-être conclure en disant que finalement, le Wendigo a inspiré beaucoup, beaucoup d'autres créatures populaires d'aujourd'hui.
Oui.
Le Bigfoot, le loup-garou, les vampires, peut-être les zombies. Mm-hmm. C'est clair que le Wendigo est un peu à l'origine de
tout ça. C'est comme un mélange, hein? Puis on a pris des parties du Wendigo pour en créer d'autres créatures.
C'est ça.
C'est très intéressant.
Dans le temps aussi, tu sais, ça fait des milliers et des milliers d'années que la légende existe. Je pourrais pas dire autant des autres créatures. Là, le Wendigo, il y a de l'âge.
Ouais, ben c'est ça, ça date pas d'hier. Hey, c'est intéressant, ça.
Ah, ben,
créatures qu'on connaissait moins.
Ouais, exact.
Ah.
Le Wendigo, puis c'est un, tu sais, très connu. Je vous invite fortement à aller voir Wendigo sur Google. Allez voir des images, vous allez voir Et qui est lette. Et qui est lette. Ah! Oui, mais il m'énerve. Oh mon Dieu, ça va pas que ça m'énerve.
Ben oui, tu t'es échappé, là.
Je me suis échappé, Jason. Après 33 épisodes, je viens de sacrer. C'est la première fois que ça m'arrive. Bon, ça y est, regardez pas.
Ben oui,
ma mère va me le dire.
Ben oui, tu vas te faire chicaner, là. Tu vas te faire chicaner. Mais le Wendigo, ouais, c'est ça. Si on va voir des images, là, souvent. Mais les images, tu vois, ça, c'est des images que j'ai vues souvent. Souvent avec des cornes ou des bois. De chevreuil ou d'orignal. Ça, l'image, là, oui, je la reconnais, l'image. Mais la créature comme telle, son comportement, ce qu'il faisait. On dit que c'est très canadien, comme mythe, ou nord de l'Amérique. Là, alors, très intéressant. Mais vraiment, oui.
Ben, si vous avez des amis et des communautés autochtones, moi, ici, je vais être curieux, je vais peut-être en parler justement à des Inuits.
Ben oui, voir si eux connaissent ça, parce que bon, on a la chance d'en côtoyer là, des gens qui font partie des communautés autochtones qui, justement, avaient cette croyance-là dans leur folklore. Ça pourrait être intéressant. Ouais. Mm-hmm. Peut-être qu'on aura un retour qu'on pourra faire à un moment donné avec des infos supplémentaires.
Exact.
Hey, c'est cool. Écoute, Tristan, on faisait une diffusion en direct. Il y a peut-être des gens qui vont dire « Ah, je vais aller l'écouter sur Facebook. » La caméra a surchauffé.
Ah oui?
On a perdu peut-être les 10 dernières minutes.
Ah, okay.
Donc, si vous écoutez la balado-diffusion et que vous allez sur la page Facebook pour aller voir la vidéo de cet épisode-là, vous allez manquer là, les 10 ou 12 dernières minutes, là, étant donné que la caméra était à plein soleil et elle a surchauffé.
Bon, c'était un test pour la diffusion en direct.
On va savoir pour la prochaine fois. Ben ouais. On va essayer de s'organiser autrement parce qu'il fait extrêmement chaud dans le studio.
C'est vrai.
Alors,
c'est vrai.
Voilà. Ben, merci beaucoup, Tristan.
Ben,
encore un nouveau dossier avec un nouveau sujet qu'on n'avait pas abordé encore. Très intéressant, encore une fois.
Partagez, likez, ça va te faire plaisir. Ça va booster justement là, le visionnement sur les internets. Ça nous fait super plaisir là, de savoir que les gens apprécient notre podcast. Pour vrai, c'est super cool.
Absolument.
Alors, allez, suivez-nous. Suivez-nous sur notre page Facebook. On continue chaque semaine.
Toujours. Hey, merci beaucoup, monsieur Brunet Dupont.
Plaisir.
On va s'en aller sans faire... On mangera pas de chair humaine.
Non.
D'un casou.
On va manger végé.
Des burgers de bœuf bien ordinaire. Hey, à la semaine prochaine, tout le monde, ou à la prochaine fois que vous nous écoutez en balado-diffusion. Vous êtes nombreux. Depuis le début de la pandémie, là, les écoutes ont explosé. Énormément de gens qui ont fait la découverte de dossiers bizarres. Alors, partagez la bonne nouvelle. Allez faire j'aime sur la page Facebook. Gênez-vous pas pour partager les liens. C'est du contenu gratuit. On est rendu à 34 heures à peu près là, de contenu 100% gratuit que vous pouvez écouter là, sans vous abonner à aucune plateforme. Vous pouvez les écouter quand même assez facilement. Alors, ben merci à nos nombreux fans et à les gens qui nous ont poussé à recommencer durant cette période un peu plus difficile.
Vraiment.
Hey, bye!
Salut!
L'émission Dossier Bizarre était une présentation de...
Ici José Théodore, l'ancien gardien de but du Canadien. Est-ce que, comme moi, ton plus grand cauchemar serait d'avoir plus de cheveux? Alors, ne crains plus rien grâce à mon nouveau produit, Les Cheveux de José. Les Cheveux de José est un produit 100% original, fait entièrement de Propecia, mais avec ma face sur la bouteille. Grâce aux cheveux de José, tu ne perdras plus jamais tes cheveux, mais tu ne pourras pas non plus aller aux Olympiques. Disponible dans toutes les bonnes quincailleries.